Le Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dmoni.
Chenni Beri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue.
Insécurité, la situation dépasse-t-elle les autorités? Sur le thème du Grand Dialogue de ce soir, une semaine sanglante dans le pays du fait de l'insécurité au nord, au centre et au sud du pays. Au moins une dizaine de morts ont été enregistrées ce week-end dans des attaques et embuscades contre les forces armées maliennes et civiles, dont deux conducteurs marocains à Djigeni de la région de Kaï. Au même moment, des groupes djihadistes imposent la charia aux habitants de cinq villages du cercle de Youarou dans la région de Mop. Quelle explication à cette montée de l'insécurité? À quoi faut-il s'attendre? On en discute dans ce grand dialogue avec nos invités. Dr Ali Tounkara, directeur du Centre d'études stratégiques au Sahel. Boubacar Boukoum, spécialiste du développement et de la coopération transfrontalière. Madame Kadiatou Keïta, spécialiste des questions sécuritaires. Je suis Imran Akilou Maïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Docteur Ali Tounkara, de temps en temps, la situation sécuritaire se dégrade de plus en plus dans le pays. Et comment peut-on expliquer une telle dégradation à ce niveau?
Plusieurs facteurs sous-tendent effectivement la dégradation du tissu sécuritaire, tant dans les régions du Nord que celles du centre du pays. Parmi ces facteurs d'emblée, il faut quand même évoquer la saison de pluie. C'est vrai que beaucoup de nos localités à l'intérieur du pays sont enclavées, donc sont difficilement accessibles entre le mois de mai jusqu'au mois de décembre en réalité, notamment toutes les parties dites de la région de Ségou, une bonne partie même de la région de Mopti également. Ce sont des localités qui sont difficilement accessibles, donc naturellement, ces trajets enclavés sont parfois aussi courtisés ou convoités par les groupes radicaux violents, dont l'armée, avec des moyens très limités, avec que des 4x4, à la limite même pas des blindés. Il va de soi que les embuscades soient tendues ça et là. Au-delà de ces aspects climatiques, il faut aussi rappeler à combien nous assistons à une sorte de localisation du terrorisme de façon simple. De plus en plus, nous avons des Maliens qui appartiennent à des groupes radicaux violents, qui sont nés dans les différents terroirs en proie aux attaques terroristes, qui ont eu grandi, qui perpétuent aussi des actions violentes dans ces mêmes terroirs. Donc, ce qui va rendre davantage difficile, voire impossible, d'identifier déjà les acteurs qui sont à l'origine de ces différentes attaques violentes. Mais dans le même temps, il y a aussi des actions qu'on pourrait qualifier d'isolées de la part de groupes armés criminels, notamment toute la partie de la région de Kaï. On sait pertinemment que la région de Kaï comprend pas mal de nos compatriotes qui vivent dans la diaspora. Quand ceux-ci viennent pour passer des vacances au pays, naturellement, ils sont très souvent attaqués sur des trajets entre Bamako et Kaï. Ce sont des attaques qui ne sont vraiment pas isolées pour qui connaît cette partie du territoire. Donc ça, c'est cette forme d'humanitisme. Certes, elle pourrait nous paraître cette forme comme résiduelle, mais quand on est de la région, ou quand on s'intéresse à la région du Kaï, on va se rendre compte que c'est quelque chose de régulier, c'est quelque chose de tout à fait connu de population de Kaï. Mais tout cela, il faut aussi le mettre, le fait que on a quand même une certaine connexion entre les entrepreneurs de la violence, qu'on soit dans des conflits locaux, qu'on soit dans des conflits avec le référentiel musulman, ou qu'on soit même dans ce qu'on pourrait qualifier de la criminalité organisée. Chacun de ces acteurs ou chacune de ces catégories se donne des coups de main, en gros. Si je suis de la Katiba de Hamadoun Koufa, j'entends opérer une action d'une grande envergure, je pourrais demander l'apport d'un groupe armé qui est parfois inscrit dans le processus de l'accord pour la paix et la réconciliation. Tout cela rend effectivement la saisie du phénomène d'insécurité non seulement confuse, cette saisie, mais dans le même temps très dynamique, parce que d'une période à une autre, d'un endroit à un autre, le phénomène change de nature, change même, si vous voulez, d'acteur.
Madame Kadiatou, Dr Ali Tunkara met en exergue la dégradation de la situation sécuritaire sous forme de manque de moyens limités des forces armées maliennes et puis la saison de pluie. Quelle est votre lecture face à cette dégradation sécuritaire?
Bien évidemment qu'il y a des facteurs climatiques à prendre en considération. Bien évidemment qu'il faut prendre en considération le fait que l'armée malienne n'a pas suffisamment les moyens. Ça, on le dit, on le redit depuis très très longtemps. Et ça, c'est pas quelque chose qui a discuté là actuellement. Par contre, je pense qu'il faudrait aussi prendre en considération le fait que, comme il l'a dit, il y a aujourd'hui de plus en plus d'attaques armées qui ne sont pas du fait de ce qu'on appelle aujourd'hui des terroristes ou des groupes djihadistes. Il y a de plus en plus, en fait, d'attaques qui relèvent du banditisme, des gens qui profitent aujourd'hui de la prolifération des armes pour pouvoir attaquer et semer la terreur dans la population. Donc, quand on regarde le dispositif sécuritaire, c'est en tout, en fait. Il y a des groupes djihadistes, il y a ces groupes armés qui profitent du vide, qui profitent de l'absence de l'État dans certaines localités, qui profitent de la peur des populations pour semer ces actes-là.
Boubacar Boukoum, la situation sécuritaire dépasse-t-elle les autorités du pays?
Absolument, il faut reconnaître aujourd'hui que l'État est totalement dépassé par ce phénomène. Les phénomènes qu'il vient d'évoquer en partie sont une réalité, mais l'autre partie est que sur le plan international, nous sommes pris dans l'étau de la gouvernance internationale. Aujourd'hui, il faut comprendre que le problème de la sécurité du Mali n'est pas un problème strictement militaire et qu'il faut le mettre dans le cadre de la coopération internationale, dans le cadre de la dynamique de la diplomatie malienne. Il n'est pas sans considérer aujourd'hui que nous avons une chronique qui défraie la place publique aujourd'hui, qui est l'affaire de l'avion commandé par le Mali et qui n'est pas livré parce que les États-Unis posent problème. En réalité, il faut comprendre que le grand chapeau du terrorisme, c'est les États-Unis. Et sous les États-Unis, vous avez la France. Et le mécanisme consiste aujourd'hui à utiliser ces moyens comme des moyens de pression, des moyens de pouvoir faire plier les États. C'est ça la triste réalité de la problématique de l'insécurité aujourd'hui. Nous avons tendance à croire que c'est le djihadisme. C'est absolument faux. C'est les mouvements d'extrémisme violent entretenus par le système mondial. Cette mafia internationale qui a installé ce mécanisme dans nos pays a comme levier essentiel la diplomatie, comme moyen de pression sur nos États. C'est ça la réalité. Vous allez prendre Amadou Koufa, Yad Agali, tous ces mécanismes qui sont là, et la perte même, la déliquescence même de notre État est un mécanisme international imposé à nos États. C'est ça la triste réalité. Parce que vous avez le chapeau financier qui est le FMI et la Banque mondiale qui est le levier essentiel, et c'est dans ça que vous avez tous les phénomènes de manipulation. Vous avez vu récemment en Guinée que voilà, il y avait l'armée américaine qui était présente. Donc ça montre aujourd'hui que la présence de ces forces étrangères, entre guillemets, qui sont des mercenaires au solde de certaines puissances, sont partie intégrante du mécanisme de la violence dans nos pays. Ce n'est pas une violence locale, mais c'est une violence internationale. Et la théorie du chaos et du choc sont des éléments essentiels parce que c'est le business de la guerre.
On avait constaté qu'à l'époque, l'armée est attaquée directement dans les casernes. Mais ces derniers temps, le constat est tout autre. De plus en plus, l'armée tombe dans des embuscades. De quelle explication à cela?
Cela est tout à fait normal parce que l'armée n'est pas assez dynamique dans sa posture. D'abord, ce que vous appelez des casernes, je les appelle des dortoirs des militaires et de leur famille. Ce ne sont pas des casernes de façon correcte, parce que vous avez, dans nos camps militaires, généralement, c'est les familles des militaires, c'est les enfants des militaires qui y résident. Donc, ce ne sont pas des structures totalement militaires. Et l'autre problème, c'est qu'aujourd'hui, en tentant de ravitailler les structures en termes de munitions, en termes de logistique, effectivement, il y a des embuscades. Et comme il n'y a pas une possibilité de faire une couverture aérienne et observer en amont pour savoir qui est caché où, n'étant pas présent sur l'ensemble du terrain, donc la progression devient difficile parce que l'appui logistique nécessaire à cette progression en termes d'éclairage, en termes d'observation, nous n'avons pas ces moyens. Donc effectivement, ils prennent des risques et ils tombent dans des embuscades. Mais ce qu'il faut comprendre dans le mécanisme des embuscades, c'est que déjà en amont, c'est connu. On sait plus ou moins où se cachent ces gens. Donc je pense aussi qu'il y a un risque que nos soldats sont en train de prendre, qu'on aurait pu éviter, parce que ça, c'est en termes d'organisation logistique, c'est en termes d'intelligence sur la progression. Je pense que ça, c'est des mécanismes qu'on peut éviter.
Vous dites qu'on aurait pu éviter. Docteur Ali Tunkara, pourquoi l'armée peine à éviter ces embuscades?
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs aussi qui sous-tendent les embuscades qui sont tendues contre nos forces de défense et de sécurité. Mais rappelons quand même que de janvier 2020 à aujourd'hui, on a assisté à une sorte de redéfinition de l'appareil sécuritaire, de l'opération Maliko, en passant par l'opération Keletigui. Naturellement, l'état-major avait compris qu'il fallait vraiment revoir sa façon d'intervenir. Mais maintenant, concrètement, comment expliquer ces différentes embuscades auxquelles les éléments de forte défense et sécurité font l'objet? D'emblée, il faut déplorer l'insuffisance et l'inadéquation des outils qu'ont les éléments de forte défense et sécurité. Si vous regardez les différentes colonnes, que ce soit dans la région du centre ou celle du nord, c'est une réunion de 4-4 en fait. À la limite, on a pratiquement pas de blindés. Alors, si vous regardez un contingent de l'aménagement passé sous vos yeux, vous allez vous rendre compte qu'il y a au moins 2 à 3 blindés qui les accompagnent. Vous voyez ce que ça fait. Or, au Mali, même l'attaque récente, il n'y avait aucun blindé qui soutenait.
Mais est-il difficile de détecter ces mines-là?
C'est très compliqué. Même les armées les plus sophistiquées savent qu'effectivement, s'assurer qu'il n'y a pas de mines posées, ce n'est pas une tâche aisée en toute objectivité. Mais dans le même temps, une opération militaire coûte très cher. Quelle que soit la nature d'une opération, elle coûte à moins de 500 millions de francs CFA. Vous voyez ce que ça fait. Donc, pour ceux qui sont un peu aux côtés des impôts et des finances, ça va combien à chaque sortie de nos forces de défense et de sécurité. Ce sont des sommes extrêmement importantes qui sont investies. Mais je pense qu'on est vraiment dans un combat qui s'inscrit dans le long temps. Imaginons que sommes-nous en face d'une armée qui a très peu de blindés. Combien coûte un blindé? Vous voyez ce que ça fait déjà en termes de moyens financiers conséquents. De la même manière également, une des tares de l'armée malienne, ce sont en tout cas toutes les difficultés qu'elle prouve à avoir le soutien effectif, effectivement, des populations rurales en termes de fourniture et de la collecte de renseignements pour des comportements aussi liés auxquels certains éléments de forte défense et de sécurité se sont toujours montrés pas du tout orthodoxes vis-à-vis des populations. Ils sont perçus également par les populations comme des gens qui sont là à les racketter, comme des gens qui sont là à les spolier. Une des raisons de plus qui expliquerait le pourquoi les pièges tendus, effectivement, l'armée n'est pas informée.
Donc, au-delà de... Parlant des pièges, nous allons écouter. Du côté de la DIRPA, on annonce que cette nouvelle forme d'attaque s'explique par le fait que l'armée n'est plus statistique et sort pour traquer les djihadistes. Écoutons la réaction de colonel Souleyman Dembélé, directeur de la DIRPA.
Vous voyez maintenant qu'il y a plus d'attaques sur les pharmas, sur les routes. Les attaques ne sont plus sur les casernes. Cela s'explique comment? Auparavant, les pharmas étaient dans une posture statique. On ne sortait pas beaucoup pour aller à la rencontre des terroristes. On ne sortait pas pour aller chercher les terroristes dans leur dernier retranchement. C'est ce qui se fait. Et actuellement, si vous voyez un peu les statistiques des attaques, elles sont généralement commises sur les routes et lorsque les femmes sont en mouvement. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ça veut dire que vos forces sont actives maintenant et vos forces sortent pour aller à la rencontre des terroristes. C'est ce qui l'explique. Et ça ne doit pas faire l'objet d'inquiétude. C'est parce qu'on va les chercher qu'eux aussi, ils cherchent à nous avoir sur les routes. Et si on n'était pas mobile, ils n'allaient pas nous avoir. Les terroristes veulent empêcher les femmes à rayonner, à se déplacer, à aller vers eux. C'est ça le problème.
Colonel Dembélé disait qu'il ne faut pas s'inquiéter. Faut-il s'inquiéter par rapport à ce qui se passe sur le terrain?
Il y a des embuscades. Il y a des forces militaires qui perdent la vie. Tous les jours. Il y a des blessés tous les jours. Donc je suis assez étonnée qu'on entende dire qu'il ne faut pas s'inquiéter quand nos militaires perdent la vie. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a voulu dire, mais en tout cas, c'est ce qui transparaît un petit peu. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça et que oui, les FAMA bougent un peu plus, mais quelle est la stratégie aujourd'hui que l'État a, que l'État met en place pour assurer la protection de ces FAMA-là qui se déplacent? Parce que les militaires sont en train de s'ajuster, les groupes d'extrémistes violents sont en train de s'ajuster. Ils sont en train de revoir leur stratégie. Aujourd'hui, une embuscade, c'est quelque chose que l'on peut planifier avec très, très peu de moyens. Et c'est quelque chose qui peut faire de très gros dégâts, en fait. Donc, c'est même une stratégie qui est plus facile à mettre en œuvre que d'attaquer des casernes. Parce que ça, il faudra faire une reconnaissance, ça demande énormément de moyens. Les embuscades ne demandent pas autant de moyens. Donc là, ce sont des stratégies qui sont faciles à mettre en œuvre, qui jouent sur le mental de nos forces de sécurité parce qu'elles vont sur le terrain sans savoir ce qui peut leur arriver en cours de route. Et c'est une stratégie qui est en train aussi d'avoir un impact sur la population, en plus de tuer les populations. Donc je pense qu'il faudra... C'est bien que l'on puisse dire aujourd'hui, oui, c'est parce que nos FAMA bougent, mais aujourd'hui, on sait que nos FAMA, en bougeant, sont attaqués. Donc, quelle stratégie on met en œuvre pour éviter ça?
Est-ce que l'armée tire les leçons en matière de renseignement de ces embuscades?
Ça, c'est une bonne question, en fait. Et quand on regarde le fait qu'il y a énormément d'embuscades, quand on regarde même le fait que des casernes sont... attaqué, on se demande en fait est-ce que l'armée tire véritablement les leçons de ce qui se passe en fait. Et je pense que beaucoup de gens dans la population ont aujourd'hui l'impression que ce n'est pas le cas. Pour pouvoir déjà éviter les embuscades, il faut, comme on l'a dit, il faut avoir des moyens. Il faut avoir une surveillance aérienne, ce qui manque aujourd'hui à l'armée malienne. Donc c'est vrai que ça a un coût, mais il faudrait que l'on puisse investir dans ça. À défaut, il faudrait avoir des renseignements de la population. Ce que l'armée malienne peine aujourd'hui à avoir, parce que justement, il y a des gens qui pensent que quand on partage des informations avec nos forces de sécurité, au mieux, elles ne font pas grand-chose. Au pire, on se met soi-même en danger. Alors que sans ces informations, sans surveillance aérienne, ce n'est pas possible de pouvoir lutter ou de pouvoir empêcher des embuscades.
Quelles conséquences ces embuscades peuvent-elles avoir sur l'état d'esprit des soldats sur le terrain quand on entend colonel Souleymane Dembélé disait qu'il n'y a pas lieu à s'inquiéter?
Mais écoutez, comme elle a dit, ça joue beaucoup sur le moral des hommes. Mais ce qu'il est important de comprendre, d'abord, quand il dit qu'ils ne sont pas dans une posture statique, je suis désolé, cela n'est pas exact. Parce que c'est des déplacements de point à point, généralement, d'une position connue à une autre position. Ils ne sont pas dans l'offensive réelle. Parce que c'est là où, effectivement, comme elle l'a dit, il n'y a pas une stratégie très visible et très lisible de cette stratégie qui consiste à dire qu'il faut éradiquer le terrorisme. Aujourd'hui, on aurait compris qu'on a détecté une poche réelle de djihadistes et qu'on a monté une grande opération pour aller les déloger. Ben écoute, quand il y a une embuscade, bon, son explication peut tenir, mais c'est pas le cas pour le moment. Il s'agit juste des petits déplacements de logistique ou des ravitaillements où les embuscades sont les plus fréquentes. Donc ils sont pas dans la guerre réelle. Et c'est là où il y a problème. Il faut aujourd'hui que l'armée malienne engage une véritable guerre à grande échelle et accompagnée des partenaires. Maintenant, si notre diplomatie...
Pourquoi vous dites qu'ils ne sont pas, suffisamment formés, plutôt qu'ils ne sont pas en matière de guerre, quoi?
Non, écoutez, la guerre par rapport à un mouvement d'extrémisme violent consiste à faire quoi? Avoir l'information exacte de la poche qui sont occupées. Ces zones sont connues. La forêt de Ouagadougou, elle est connue. Maintenant, aujourd'hui, qu'on se dise qu'on se donne tous les moyens de faire une attaque d'envergure, les déloger, les débusquer, aller tirer IAD de là où ils se retranchent. Mais ça, c'est des opérations qui sont très claires et qui ont un objectif bien défini. Dans une telle progression, si vous avez une embuscade, oui, son explication peut tenir. Mais ce n'est pas le cas. À l'instant, ce n'est pas ça le cas. Maintenant, je veux juste dire qu'aujourd'hui, toute la logistique dont l'armée a besoin, c'est vrai. Localement, nous n'avons pas les moyens de le faire, mais nous avons des partenaires qui sont sur le terrain, mais qui ne définissent pas les bonnes conditions pour aller à un tel exercice. Donc, nous sommes réduits au strict minimum en termes d'équipement, nous sommes réduits au strict minimum en termes de renseignement, et la mobilité aussi, elle est réduite parce que nous n'avons pas toute la logistique qui sied à ce genre d'opération. Donc, c'est incompréhensible que notre diplomatie ne puisse pas imposer une vision, d'abord une stratégie militaire bien définie, avec une possibilité de dire à nos partenaires, voilà la stratégie dans laquelle nous vous invitons, et l'opération se déroule dans ce principe. Mais aujourd'hui, nous sommes tirés par le bout du nez, par cette structure qui n'apporte pas, outre mesure, grande valeur ajoutée, et nous-mêmes, nous sommes dans l'incapacité de résoudre l'équation. Donc, la synergie d'action entre nos forces de défense et de sécurité et la complémentarité, parce que la logistique dont nous avons besoin, M. Tungara vient de le dire, quand il y a une patrouille de la MINUSMA ou un déplacement de la MINUSMA, la logistique qu'il déploie, on la voit. Mais pourquoi cela n'est pas combiné avec celle de l'armée malienne? Donc il y a un dispositif à prendre, les terminologies militaires sont connues, la méthode de progression militaire elle est connue, que ce soit des FAMA ou de nos partenaires de la MINUSMA, mais il s'agit maintenant de mutualiser ces forces pour pouvoir être plus efficaces sur le terrain.
Tout à fait, Docteur Ali Tunkara, selon les informations, les militaires tués dans l'embuscade de ce dimanche partaient secourir les populations d'un village menacé par les djihadistes. Y a-t-il une défaillance dans la communication de l'armée?
Je pense que oui et non. Oui, parce que si vous prenez quand même, il faut être franc là-dessus. L'armée malienne a des limites très évidentes en termes d'équipement militaire, incontestablement. Mais au-delà d'équipement militaire, je crois que Mme Keïta a bien fait de mentionner l'impérieuse nécessité de bénéficier de cet apport de la part de communautés qui vivent dans ces endroits en proie aux attaques terroristes. Une des raisons qui expliquerait le pourquoi du déclenchement de l'opération Kelletigui, la finalité recherchée par cette opération Kelletigui, portée par l'état-major, à comment renforcer davantage ces liens de confiance entre éléments de forte défense de sécurité et population, notamment rurale. Je pense que l'état-major il est vraiment conscient des enjeux en toute objectivité. Mais rappelons, sans pour autant soutenir l'armée, que lorsque des attaques sont dirigées contre les populations civiles, les populations en question sont dans les sensationnels. Elles souhaiteraient, ce qui est très légitime, une intervention imminente de l'armée. Or, on sait pertinemment que dans cette exigence militaire et le souci de combler les attentes des populations en termes de l'offre et de la demande de sécurité, parfois il y a des écarts qui sont importants. Donc, agir dans les sensationnels par l'armée, naturellement, on tomberait dans des embuscades. Je suis d'accord avec beaucoup, mais effectivement, quand vous prenez le contexte malien, il y a un sérieux problème de coordination des efforts. Il y a des efforts qui sont en cours, on ne peut pas les nier. Quand on prend les différents plans qui se sont succédés,
Est-ce que vous partagez son explication selon laquelle l'armée malienne n'est pas en posture réelle de guerre?
Non, elle est vraiment, clairement, elle est en pleine guerre aujourd'hui. Il ne faut quand même pas être aussi radicaliste ou radical. Non, il faut être sérieux avec le sujet. L'armée malienne, elle est sérieusement engagée dans des conflits pour avoir vu les hommes dans les centres ainsi que dans le nord du pays. C'est indéniable. Même l'attaque de Tessit l'an passé, ou les attaques de Tessit, ce sont quand même des volontaires. On les avait parce que la barque qui servait de regagner Tessit sans passer par des routes très piégées. Cette barque avait été endommagée par le groupe radical violent. Mais en dépit de tout cela, on a quand même eu des hommes qui ont accepté de risquer leur vie. Merci beaucoup. Comme il faut saluer cela. Et de la même manière également, il faut qu'on soit lucide. Ils savent ces éléments qui sont sur les différents théâtres sensibles, qu'effectivement, il y a d'insuffisance en termes d'équipement, il y a d'insuffisance en termes d'information, même de, si vous voulez, des renseignements. Mais en dépit de toute cette tare, ils prennent quand même leur destin en main pour apporter le minimum d'appui qu'ils peuvent à nos populations qui vivent dans ces formes de crises multidimensionnelles. Donc, pour vous dire que l'armée malienne, clairement, a des difficultés évidentes en termes d'équipement, mais là où nous devons vraiment travailler davantage pour minimiser ce genre d'embuscade, à comment aujourd'hui...
Nous allons parler des solutions plus tard. Madame, est-ce que l'armée aujourd'hui dans une posture réelle de faire face à la menace djihadiste?
Avant de répondre à ça, permettez-moi juste de rebondir sur ce que disait M. Boukoum. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, le Mali doit clarifier ses besoins à la communauté internationale. Et je pense qu'aujourd'hui, le Mali aussi doit pouvoir être en position de dire voici ce que nous voulons. Et ça, ce n'est pas forcément évident en matière d'aide, parce que c'est plutôt les autres qui viennent en disant voici ce qu'on peut faire pour vous et on le prend. Donc, je pense que ça, c'est important que le Mali clarifie ses besoins. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, il faut aussi que le pays puisse mobiliser ses propres ressources. C'est pas évident, on est dans un pays qui est pauvre, disons-le, mais il faut quand même que le pays puisse mobiliser ses propres ressources. On l'a vu avec l'exemple afghan il n'y a pas si longtemps. Aucun pays ne va aider indéfiniment un autre pays à sortir de sa guerre ou à sortir du conflit. C'est pas possible. Tôt ou tard, ces forces vont se désengager. Et on le voit encore avec la volonté de Paris de réduire ou de modifier un peu sa stratégie au Mali. Donc, il faut qu'aujourd'hui, le peuple malien et l'État malien puissent mettre en place des stratégies de mobilisation des fonds pour justement doter l'armée des moyens dont nous parlons. Et je pense qu'aujourd'hui, la population elle-même ne comprendrait pas que, en fait, au moment où on est en train de parasiter un peu le débat public sur l'avion présidentiel, les moyens de l'État, il faut qu'on puisse dire en même temps qu'on n'a pas des moyens pour doter notre armée du matériel dont elle a besoin. Donc je pense que c'est important qu'on puisse regarder vers nous-mêmes et ce qu'on peut faire concrètement.
Pendant que l'armée sorte pour aller attaquer les djihadistes selon la DRIPA, des dizaines de villages sont contraints de se soumettre à la charia imposée par les djihadistes. Cette sortie a-t-elle de valeur si elle ne parvient pas à assurer la sécurité de ces villages-là?
Aujourd'hui, il faut quand même que l'armée sorte. L'armée ne va pas rester dans une localité bien déterminée. Il faut que l'armée sorte, il faut que l'armée essaye de gagner un petit peu autant de positions que possible. Après, est-ce que ça empêche les groupes d'extrémistes violents de pouvoir prendre le contrôle sur une localité? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ces groupes sont entrés, en fait, on ne le sait pas, parce que tant qu'aujourd'hui, malheureusement, tant que Bamako est relativement épargné, on pense que tout va bien. Mais ces groupes, aujourd'hui, sont en train d'encercler Bamako, sans qu'on en parle véritablement. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de populations, il y a de plus en plus de villes qui sont obligées, justement, de se soumettre à la charia parce que l'armée n'est pas là pour pouvoir les défendre et les protéger.
Face à la menace des présumés terroristes, plusieurs centaines d'habitants des villages dans la région de Segou sont contraints de quitter leur village. Écoutons ce papier signé Fatih Yattara.
Ces déplacements massifs des populations sont signalés à Bouyaguiwere, Bewani, Pondasaba, Manijé, Nanzambougou, Zanakoro et Mokon, tous des villages de la région de Ségou. Des populations estimées à plus de 1000 personnes, des femmes, des enfants et des vieilles personnes en majorité. La situation reste précaire dans la zone où des présumés djihadistes et des milices de chasseurs s'affrontent régulièrement. Dans la même zone, des convois de l'armée malienne sont tombés dans une embuscade ce dimanche entre Manijé et Kolongo, cercle de Massina. Les bilans, selon les autorités militaires, est de 5 morts, 5 véhicules brûlés du côté de Fama, ainsi que 3 morts et 3 véhicules détruit côté assaillant. Au même moment, des routiers marocains ont été tués à Nara et plus de 4 personnes, dont un policier, ont été blessées par des hommes en armes. Selon des sources locales, ces hommes armés seraient venus de la forêt de Ntobala entre Kita, Djeni et Djema.
Plus de 1000 personnes sont contraintes de quitter leur village dans la région de Ségou alors que des militaires sont à la tête du pays. Quelle lecture faites-vous de ce déplacement massif de ces populations-là?
Mais écoutez, avant de répondre à votre question, je vais rebondir sur un fait du docteur Tungara pour dire que je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas dans la guerre. Mais aujourd'hui, la Constitution permet de décréter un acte de guerre qui n'est pas encore fait. Donc l'État n'est pas totalement engagé dans l'acte de guerre et de la mobilisation des ressources en interne pour vraiment se mettre dans une vraie posture de guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est la stratégie de mise en œuvre qui pose problème. Mais nos militaires, je sais qu'ils font un boulot excellent sur le terrain, ils se battent comme ils peuvent, comme des beaux diables, mais malheureusement, la stratégie ne suit pas et les mécanismes et toute la logistique dont ils ont besoin pour arriver à bout de ce terrorisme n'est pas assurée
par les dirigeants. C'est ça la triste réalité. Maintenant, l'autre chose qu'il faut comprendre par rapport au fait que des militaires dirigent le pays, je vais toujours vous dire que cette crise que nous vivons n'est pas une crise militaire. En réalité, il faut qu'on arrête de nous faire croire qu'il s'agit d'un combat militaire. C'est une guerre économique qui nous est imposée et de façon bilatérale et multilatérale, nous nous sommes piégés par ce système. Donc, tant que nous n'aurons pas compris que cette guerre n'est pas une guerre militaire, parce qu'aujourd'hui, ce que les gens semblent oublier, nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui de recruter autant de militaires que possible pour finir cette guerre. Même si les 15 ou 19 millions ou 20 millions de Maliens qui nous sommes, chacun d'entre nous devrait prendre une Kalachnikov, vu la nature de la guerre qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon international asymétrique, c'est impossible de venir à bout de cette guerre. Donc, les fondamentaux qui sous-tendent cette guerre, il faut bien les analyser. Les causes profondes de cette guerre, il faut bien les analyser et apporter des réponses. Et la réponse qu'on peut apporter à ce genre de questions d'abord, c'est que quand vous regardez la progression de notre armée qui va peut-être déloger les djihadistes dans une zone, mais après, qu'est-ce qu'on fait pour sécuriser cette zone? Parce qu'il faut bien qu'on avance. Mais si l'État n'existe pas, donc le vide que vous allez laisser fait qu'ils vont revenir. Donc comment vous voulez avoir une collaboration de ces populations qui savent que d'un moment à l'autre, vous allez quitter? Donc ça les fragilise. Donc tous ces problèmes font qu'aujourd'hui, il y a lieu de revoir la stratégie.
Donc vous voulez dire que les mesures sont limitées? Les mesures
non, la compréhension même de la problématique sécuritaire, elle n'est pas comprise. Parce qu'aujourd'hui, quand j'écoute les gens qui disent « c'est des militaires au pouvoir ». Oui, les militaires, qu'est-ce qu'ils savent faire? C'est faire la guerre. Mais ce n'est pas une guerre classique. C'est ça qu'il faut comprendre. On a une guerre économique qui est à la clé. Aujourd'hui, je pense bien, si le Mali, aujourd'hui, M. Goïta comprend que cette mobilisation des ressources auxquelles Madame a fait allusion tout à l'heure, ça se fait sur la base de quoi? Si les FMI et la Banque mondiale ne veulent pas nous financer des armes, ça veut dire que nous avons quand même notre or sur lequel nous pouvons capitaliser. Nos ressources naturelles sont là, nos ressources humaines sont là. Il faut faire une mobilisation générale, il faut aller à la réquisition générale pour que tous les Maliens, à quelque niveau qu'on soit, qu'on se sente impliqués dans cette guerre, qu'on comprenne que ce pays, il faut le sauver. Mais cette dynamique, elle n'est pas encore là. Aujourd'hui, quand je regarde les multinationales qui font sortir notre or n'importe comment, mais alors que nous avons besoin de ressources, tous les jours, nous sommes obligés d'aller à Bruxelles, aller à Paris pour commander de l'argent, pour juste assurer la petite logistique. M. Tungara vient de le dire tout à l'heure, pour un déplacement d'une unité militaire, ça coûte beaucoup d'argent. Mais alors pourquoi on doit laisser notre sécurité pendant que nous avons des ressources qui sont mobilisées pour d'autres fins? Il y a un problème quand même. Donc il y a lieu quand même de recentrer la compréhension de la problématique sécuritaire parce que c'est des moyens financiers et les finances mondiales, on sait comment ça fonctionne et nous, nos ressources contribuent à faire évoluer les finances des autres pays. Alors pourquoi nous ne capitalisons pas sur nos ressources naturelles et de dire aujourd'hui, nous sommes en état de guerre, c'est pas possible qu'on permette à les multinationales de transporter notre or pour aller ailleurs parce que nous sommes dans une situation de guerre. Ne serait-ce que pendant cette transition, nous allons récapitaliser, remobiliser nos ressources et finir cette guerre ensuite. Le reste, on en parlera plus tard.
Docteur Ali Tunkara, plus de 1000 personnes contraintes de quitter leur village en cette période hivernale, en cette campagne hivernale, alors qu'on sait que ces populations y vivent de la terre. Qu'est-ce que les autorités peuvent faire face à cette situation?
Alors d'abord, concrètement, il faut quand même soulager. Quand on est chef d'État, il faut rassurer les gens, même si on sait qu'au bout du tunnel, il n'y a pas grand-chose. Je crois que les autorités de la transition, bon gré mal gré, s'efforcent quand même à rassurer, même si le contenu n'est pas forcément consommable. Mais au-delà de
rassurer... En faisant quoi?
Les discours sont importants dans les circonstances aussi pareilles. Hein.
Ça suffit,
les sorties discours médiatisées en s'adressant à ces populations qui vivent du calvaire, ça peut apaiser le moral, on a besoin.
Est-ce que cela peut apaiser vraiment le moral de quelqu'un à qui on le menace de quitter le village?
En fait, le souci, ces mêmes populations aujourd'hui qui sont contraintes de quitter les terroirs, si l'on engage une action militaire pour traquer les acteurs qui sont à l'origine de ces exactions, ce sont les fils de ces mêmes terroirs, malheureusement. Vous voyez un peu la complexité du phénomène. Les localités qui sont concernées par ce départ massif des populations sont des localités, malheureusement, qui, à certains égards, ont des accointances, ont des complicités avec les groupes radicaux violents. Désormais, nous avons des terroristes qui s'appellent Koulibaly, Tunkara, Keïta, Bokoum, Maïga. Vous voyez ce que ça fait. Donc ça devient très compliqué. Donc lorsque des actions militaires sont engagées dans un tel désordre, naturellement, on peut toucher au fils du chef du village, au cousin de l'imam ou du prêtre. Naturellement, les mêmes populations qui demandent aujourd'hui l'intervention de l'État sont ces mêmes populations qui vont aussi déplorer les violations des droits de l'homme. Donc je crois qu'il faut être très prudent vu la nature même de la menace, parce que l'ennemi il n'est pas étrange. L'ennemi il est du local. L'ennemi il est du terroir. Je crois que l'une des exigences ou l'une des réponses qui devait être très rapidement apportée par les autorités de la transition en l'occurrence, c'est de chercher d'abord s'attarder sur des causes profondes. Ce sont nos localités, malheureusement, où avons-nous en face des difficultés d'accès et de gestion de ressources naturelles. On en parle peu, mais c'est une évidence. Ce sont nos localités où vous avez une petite minorité qui s'accaparerait de toutes les ressources naturelles, y compris les eaux, les mares et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, ce sont des questions qui relèveraient plutôt de la hiérarchie sociale d'abord, avant qu'elles ne soient des questions nationales. Donc il est extrêmement important qu'on questionne d'abord cette anthropologie du terroir. Une fois que cette anthropologie du terroir est questionnée, c'est à partir de cet instant T que les autorités peuvent apporter des réponses durables. Mais attention, je crois que dans une telle euphorie, il faut éviter des réponses exclusivement militaires. Elles peuvent certes permettre d'asseoir un débit d'accalmie, mais dans la durée, les réponses exclusivement militaires sont insuffisantes pour des questions aussi liées à l'accès aux fonciers, pour des questions aussi liées à l'accès à des zones de pâturage. C'est super, super complexe. Quand on est à Bamako, j'aime toujours le dire, on a trois grandes lectures de l'insécurité. La première lecture, c'est qu'ils vivent l'insécurité. La deuxième, c'est qu'ils l'observent. La troisième, c'est qu'ils la commandent. Les populations qui vivent l'insécurité, si vous les interrogez, elles vont vous dire des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui est partagé par le commun des mortels à Bamako ici, ou ce qui est partagé par les réseaux sociaux. Ça, c'est extrêmement important. De la même manière également, si vous faites des va-et-vient dans ces localités en proche d'attaques terroristes ou même aux conflits communautaires, ce qui est le cas de la région de Ségou, ce sont plutôt des conflits communautaires, que ce soit à Dorofri, à Djabali. C'est pas l'État islamique. Ce sont des gens, au lieu de poser les problèmes en termes de questions sociales, ils les ont communautarisés. Il y a un problème de couloir de transhumance. C'est pas un problème peul, c'est un problème de couloir de transhumance. Bon, on a ethnicisé. Il y a un problème de superficie en termes de champs. Au lieu de poser le problème en ces termes, on les a communautarisés. On l'a fait un problème bambara. Donc, vous voyez, donc il faut qu'on sorte de cette communautarisation des problèmes sociaux, qu'on sorte de cette ethnicisation des questions qui se fiche pas mal de l'ethnique, qui se fiche pas mal du religieux. Donc c'est extrêmement important. Une fois que tout cela est compris, c'est à partir de cet instant que les autorités peuvent apporter des réponses. Mais toutes les réponses apportées sans procéder par ce diagnostic, elles seraient tout à fait piégées.
Si je peux juste rebondir sur ça, ce que l'État peut faire, bien sûr, il faut rassurer, bien sûr, il faut tenir des discours qui rassurent un petit peu les populations, mais il faut aussi passer à l'acte. Les populations internes, aujourd'hui, sont laissées à elles-mêmes, en fait, en réalité. Et on le sait, la radicalisation, l'extrémisme violent est basé sur le sentiment de marginalisation que les populations ont. Donc, si on laisse ces populations-là aujourd'hui, ce sont des populations, mais qui, un jour, demain, peuvent rejoindre ces groupes djihadistes parce que, un, ça leur permet de se protéger et de rester dans leur localité. Parce que se déplacer d'une localité à une autre, c'est perdre ses ressources, c'est perdre son champ, c'est perdre sa maison, c'est perdre une partie de sa famille. Donc, il faut prendre cela en considération. Il faut aussi assurer un suivi psychologique pour ces communautés-là. Et ça, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui cruellement au Mali. C'est quelque chose que l'on ne fait pas suffisamment. Alors qu'avant de se déplacer, ces communautés ont vécu des atrocités. Donc, je pense que ça, il y a ces éléments à prendre en considération. Et l'autre chose aussi, l'État peut se baser sur ces communautés pour obtenir l'information, le renseignement dont on parlait tantôt, et qui, parce que justement, dans certaines localités, c'est très difficile d'avoir ça, parce que les terroristes menacent les gens et qu'ils ne peuvent pas parler. Donc l'État peut aussi se baser sur ces communautés internes pour obtenir du renseignement et pour développer les camps stratégiques.
Que deviendrait l'armée dans le long terme au regard de cette instabilité généralisée sur l'ensemble du pays?
Je pense qu'il faut d'abord déjà mettre en œuvre les solutions dont on parle très longtemps, parce que sinon on aura une armée démoralisée, ce qui est déjà un petit peu le cas aujourd'hui. On aura une armée réduite, parce qu'aujourd'hui, chaque jour qui passe, on est en train de perdre des gens sur le terrain. Donc je pense qu'il faut d'abord restructurer, développer des stratégies, non seulement pour la défense, mais aussi pour l'offensive, ce que notre armée ne fait pas encore suffisamment. Il faut développer des stratégies, comme on l'a dit, pour mobiliser les ressources, pour que l'armée puisse se doter des moyens dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la démocratisation des drones, ce n'est pas quelque chose qui est très, très cher. L'armée peut prendre ça pour voir justement où est-ce qu'il y a des gens qui veulent passer à l'acte ou pas. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses à faire si on veut se retrouver avec une armée forte et qui répond aux besoins du peuple malien.
Boubacar Boukoum, quels pourraient être les risques ou les conséquences de telles situations ?
Écoutez, c'est la disparition du Mali, c'est ça le risque éventuel, parce qu'en réalité on parle d'une armée, mais d'abord il faut que l'État puisse exister pour parler d'une armée. Structurellement même, c'est ça que nous avons comme problème. Madame vient parler tout de suite du système de gouvernance, on a beaucoup de problèmes par rapport à la gouvernance, Docteur Tunkara aussi en a touché un mot, mais tout ça pour répondre à la demande des citoyens, qu'est-ce qu'il faut ? C'est l'économie qui est fondamentale. Quand vous avez un pays qui ne fonctionne pas, qui n'a pas d'économie, qui est basé sur la rente, qui est basé sur la corruption, qui est endetté à outrance et qui dépend des autres pays, vous avez un problème. Donc la réaffirmation de la souveraineté de l'État du Mali est une obligation. Aujourd'hui, la transition, c'est une bonne fenêtre de tir, c'est une très bonne opportunité pour dire que nous allons réaffirmer notre souveraineté.
La transition pourrait-elle faire face à cette situation d'insécurité généralisée ?
Bien entendu, parce que c'est de l'intelligence. En fait, la sécurité, ce n'est que de l'intelligence, ce n'est pas autre chose. C'est vrai que nous n'allons pas pouvoir dire que nous allons vivre en autarcie, mais nous devons pouvoir compter sur nos partenaires et trouver un système de défense qui intègre tout le monde. Aujourd'hui, je vous prends juste un exemple. Vous avez la zone de Tessalit, qui semble être une zone géopolitique, géostratégique, et tout le monde convoite Tessalit. Alors, quand vous avez une base militaire à Tessalit, qui n'est pas forcément une base française ou une base américaine, mais qui est une base internationale dans laquelle tout le monde collabore, elle vient de parler des drones, donc la surveillance aérienne, on peut l'obtenir à partir de là. Les frappes chirurgicales, on peut les obtenir de là. On se rappelle qu'à Kona, les avions ont quitté N'Djamena en réalité. Donc, aujourd'hui, si vous avez un système qui intègre la grande artillerie que le monde occidental voudrait bien apporter et que le Mali, dans un cadre de collaboration, vous avez par exemple l'exemple de l'OTAN, vous avez un petit pays comme la Slovénie qui ici aujourd'hui se trouve être attaqué, mais écoutez, c'est l'OTAN qui va lever sa grande artillerie pour aller à l'attaque. Donc si nous n'avons pas un système intégré qui nous permette d'avoir une grande artillerie qui nous permette de traquer le djihadisme, mais à l'échelle locale, on ne peut pas. Et on nous a réduit à l'échelle congrue de G5 Sahel, mais le Sahel, ce n'est pas que 5 États, c'est un minimum de 13 États. Donc en réalité, aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse globalement sécurité. La sécurité, elle ne peut pas être par rapport à un seul pays, le Mali. Aujourd'hui, c'est tout le continent qui risque de s'embraser. Et aujourd'hui, ceux qui pensent qu'ils sont à l'abri, s'ils ne nous accompagnent pas, mais ils ne sont pas du tout à l'abri. Ce mécanisme va les atteindre au-delà des frontières terrestres et maritimes.
Ali Tunkara, vous avez amorcé les solutions. Comment peut-on rétablir la sécurité dans le pays ?
Je crois qu'il faut des solutions de concert. C'est vrai que le phénomène, il est non seulement mouvant, mais dans le même temps, il ne concerne pas que le Mali. C'est quand même important. Il est nécessité aujourd'hui de carrément procéder par une réforme du G5 Sahel, qui est certes un outil très intéressant, mais sauf que son fonctionnement est très défaillant, parce qu'on ne peut pas parler d'une force conjointe. Au même moment, chaque force opère de manière isolée. Donc, il serait très urgent que les différents commandements opèrent sous un commandement commun. C'est que la France ne s'est pas montrée favorable en 2014, de la même manière également la Mauritanie. Donc je crois que le G5, de là, on peut dire qu'il est un organe utile, mais malheureusement peu fonctionnel. De la même manière également, il est vraiment de la responsabilité du ministère des Affaires étrangères aujourd'hui de dire clairement à l'AMINUSMA, voilà quelles sont nos attentes en termes d'intervention militaire. quelles sont nos attentes en termes de collaboration avec les éléments de force défense et sécurité. C'est pas à l'aménagement de faire ce travail, c'est au ministère des Affaires étrangères du Mali et l'état-major qui doivent justement formuler une telle demande et l'adresser à l'aménagement, mais c'est chose qui n'a pas été faite de 2014 à aujourd'hui.
Madame Kadiatou, en 30 secondes, quelle solution faut-il face à cette situation d'insécurité grandissante?
Appliquer toutes les solutions énoncées par M. Tunkara. Je pense qu'en fait, les solutions, on en a parlé et reparlé, reparlé encore. On a parlé du fait que la stratégie ne peut pas être tout militaire, qu'il faut aussi accompagner cela par le développement, par le social. Donc, je pense que... Et on a donné énormément de solutions. Donc, je pense qu'il est temps maintenant qu'on quitte le discours et qu'on passe à l'acte.
Il est temps qu'on quitte le discours et qu'on passe à l'acte. C'est sur ce mot de Kadiatou Keïta que se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur l'insécurité dans le pays. La situation dépasse à telles les autorités. Nous étions avec Dr Ali Tunkara, directeur du Centre d'études stratégiques au Sahel, Boubacar Bokoum, spécialiste du développement et de la coopération transfrontalière, Madame Kadiatou Keïta, spécialiste des questions sécuritaires, à la régie vidéo Noun Guiré, à la mise en onde de Salim Diouara. La coordination est assurée par Sekou Gadjigo. Je suis Imran Akil Omega. Merci nos chers invités, auditeurs et téléspectateurs. À demain pour un autre numéro.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani wa Makara.
Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mandi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.